Passion.
Divertissement.
Respect.
Égalité.
Collectif.
Plaisir.
Objectif.
Rencontre.
Toutes les valeurs du sport avec Cham au sport.
Bienvenue à tous les auditeurs de Cham au sport, la radio qui explore les passions, les réussites et les inspirations au cœur du monde du sport et de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir un invité exceptionnel, Monsieur Vincent André, responsable de l'entreprise Picture Organic Clothing. Nous prolongerons dans son parcours professionnel et découvrirons l'histoire fascinante de cette marque innovante qui combine sport et durabilité. Restez avec nous pour une conversation captivante. Je laisse désormais ma place à mes camarades journalistes Victor, Arthur et Valentin.
Bon alors déjà, bonjour Monsieur André.
Bonjour et merci de l'invitation.
Pour commencer, pourriez-vous partager avec nos auditeurs votre parcours professionnel et ce qui vous a conduit à devenir responsable de Picture Organic Clothing?
Démarrer Picture, j'avais 20 ans et des brouettes. Que c'était plutôt le parcours scolaire qui va être intéressant. En fait, j'ai fait un cursus très classique jusqu'à bifurquer à un moment donné en STG, parce que j'avais envie de voir la gestion, de la comptabilité. J'avais vraiment envie d'entrer dans les chiffres, et pas forcément être en maths P, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Et très vite, après, j'ai bifurqué en informatique. Et j'avais commencé donc un BTS informatique programmation, et l'aventure Pitcher est arrivée, l'envie de créer quelque chose, donc... J'ai pas eu le temps de finir tout ça. Je me suis plongé directement dans le travail.
Donc plongeons-nous dans l'histoire de Picture Organic Clothing. Quelle a été l'inspiration initiale derrière la création de la marque et comment celle-ci a-t-elle évolué au fil des années?
Alors comment on a créé Picture? En fait, c'est venu un peu naturellement parce que très jeune, avec mes potes d'enfance, on pratiquait beaucoup de sports de glisse. Donc que ça soit du skateboard, du snowboard, du surf, du kitesurf, on était par toutes les saisons, on était sur une planche. Quelque part. En tout cas, dès qu'on pouvait être sur une planche, on s'y mettait. Et du coup, de cette passion est venue une espèce d'idéologie. Des fois, elles peuvent être négatives, mais des fois, elles peuvent être positives. Ça a été de dire, est-ce qu'on peut vivre de notre passion? Est-ce qu'il y a moyen de créer quelque chose qui permette de rassembler quelque chose qui te permette de gagner ta vie, donc quelque chose de sérieux, à quelque chose qui est une vraie passion et qui est un peu déconnant ou voilà. Alors ça, c'est des choses qui font très peur aux parents au début. Et puis après, ils se rendent compte que c'est pas si idiot que ça, mais il faut que le projet soit ficelé. Et l'aventure Pitcher est vraiment née de cette idée, de cette problématique qu'on s'est posée, de dire est-ce qu'on peut vivre de notre passion. Et de là a démarré en fait très rapidement un constat. Et le constat, c'était de dire, bon, on veut se lancer dans la glisse, mais on se lance dans quoi? Est-ce qu'on est un magasin? Est-ce qu'on est une expérience? Ou est-ce qu'on est une marque? Donc on a regardé un peu tout ça, on a réfléchi. Alors dans le côté expérience, il y avait par exemple de monter un all-indoor de la glisse, où tu retrouves une vague artificielle pour faire du surf, ou un skatepark, il y avait des espaces de coworking, des choses qui étaient un peu avant-gardistes, parce que c'était il y a 16 ans. Et en fait, on a fait le choix de la marque pour la simple et bonne raison qu'on touchait à beaucoup de métiers. Et mine de rien, on avait quand même beaucoup à faire dans ce milieu-là. Il faut se rappeler qu'il y a 16 ans, l'écologie dans les vêtements, ça n'existait pas. Alors il y a des marques qui en parlaient, très peu, il y en avait que deux à l'époque, petit marché de niche quoi. Et du coup, c'est là où on a eu ce constat de dire, on a des marques qui traitent des choses très techniques, on va avoir des marques qui traitent le beau, c'est beau mais c'est pas technique et absolument pas éco, et il y a des marques qui vont traiter le côté éco mais c'est pas très beau. C'était vraiment un constat il y a 16 ans, c'était ce qui se passait. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre ces trois ingrédients dans une soupière et d'en sortir un vêtement qui répond aux problématiques techniques pour la pratique sportive, mais derrière qui soit quand même looké, pas envie de ressembler à un sac à patates non plus, et qui réponde aussi à des exigences éthiques et écologiques. Parce que bon, on pratique sur des terrains qui sont des terrains naturels, on les abîme, c'est un fait, tous les jours on abîme nos terrains en allant se balader, etc. Donc essayons de les abîmer déjà le moins possible, et après derrière, comment on atteint une neutralité? Alors nous c'est par le biais de produits, mais ça peut être comment on répare ce qu'on a déconstruit à un moment donné, comment on redonne une seconde vie à des terrains de jeu, etc. etc. Donc c'est toute cette pensée-là qu'on a mis en place avec Pitcher il y a 16 ans maintenant.
Et comment cette passion elle est venue pour le respect de l'environnement et le sport? Et est-ce qu'ils ont façonné la vision de la marque et son positionnement unique sur le marché?
Alors pour ta première question, alors nous on est déjà passionnés puisqu'on vient des sports dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, la passion, on l'avait. Le côté éco, en fait, nous, on n'appelait pas ça l'écologie il y a 25 ans. Parce que quand on a eu notre permis, tous les trois avec les gars, le premier truc, parce que déjà, d'avoir le permis et d'avoir une bagnole, c'était synonyme de liberté, pas synonyme de pollution. C'était vraiment une manière de, voilà, de pouvoir parcourir le monde. Tu avais le monde qui s'offrait à toi parce que l'essence déjà coûtait moins cher, premièrement. Et en plus de ça, c'était vraiment ce truc où tu remplissais ta bagnole de potes et tu partais à l'aventure. Et derrière, nous, le côté sobriété, on ne l'appelait pas comme ça, on l'appelait la démerdardise. C'est-à-dire que tu pars à 5, tu n'as pas de sous en poche, parce qu'on est tous étudiants. Et en fait, le truc, c'est que bah, tu débrouilles d'avoir un bout de réchaud, machin, donc tu fais les pattes dans un petit truc, tu vas pas te faire les gros restos, donc tu es à la débrouillardise, tu es 5 dans une voiture, donc tu vas la remplir à bord. Donc, ça veut dire qu'en termes d'empreinte carbone, bah, c'est vachement moins élevé que si tu prends le train tout seul, typiquement. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qu'il faut identifier. Alors aujourd'hui, de moins en moins, parce que l'énergie électrique est décarbonée, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et en fait, tout ça permet en fait, d'avoir un espèce de lien avec l'écologie depuis le départ, parce que en fait on surconsommait pas, on achetait que ce qu'on avait besoin, quand on le cassait on le réparait. C'est ce qu'on prône aujourd'hui, qui a un peu déconné les 20 dernières années, mais nous c'était ça tout le temps en fait. Donc en fait ce qu'on prône aujourd'hui, quand je dis on, c'est pas nous pitchers, hein, c'est vraiment à dire les médias, ce qu'on entend dans les médias, etc., c'est finalement ce qui faisait assez naturellement, parce que de toute façon il y avait moins de choses à acheter et moins de besoins qui a été créé pour être un besoin, et finalement, on n'avait pas de sous. Ça règle beaucoup de problèmes.
Parlons maintenant de la durabilité chez Picture Organic Clothing. Comment intégrez-vous les pratiques éthiques dans tous les aspects de la conception, de la production et de la distribution des vêtements?
Ouais, bonne question. Alors, comment on fait ça? Effectivement, déjà, si on se veut être une marque engagée et éco, il faut vraiment avoir une vue 360. Il faut vraiment avoir envisagé la prod. Déjà, comment tu produis, mais à la base même, comment tu dessines ton produit. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de mettre, par exemple, est-ce qu'on est obligé de développer 20 tissus pour faire une collecte de 1200 références? Peut-être pas. Peut-être qu'à 10 tissus, ça suffit. Tu divises par deux la prod de base de matière pour fabriquer tes vêtements. Après, derrière, ça va être de dire, la fabrication, qu'est-ce que tu sélectionnes comme matériaux? Est-ce que tu prends des matériaux qui vont tenir dans le temps, ou est-ce que tu prends des trucs vachement moins chers et dans 2 ans, il faudra remplacer? Donc c'est toujours ces questions-là qu'il faut abroger. Alors nous, on fait le choix depuis le début de la durabilité. C'est-à-dire on préfère payer plus cher les matières mètres linéaires et on préfère payer plus cher les zips, les velcro, parce que c'est tout bête quand vous regardez le zip central. Ça, quand ça casse et que tu es sur un télésiège et qu'il y a 80 km/h de vent, tu détestes la marque à vie. Hein. C'est un truc... C'est terrible quand ça arrive, et ça arrive toujours quand il ne faut pas que ça arrive. Mais ça, un zip, on n'y pense pas. Mais c'est peut-être une bonne quinzaine d'ouvertures-fermetures par jour. Donc il faut pouvoir garantir à la personne qui est au moins, on va dire, je ne sais pas moi, quasiment 150 000 ouvertures-fermetures de garantie, pour être sûr que ça va réellement tenir dans le temps. Et pour ça, il n'y a pas beaucoup de marques qui le certifient. Elles coûtent très cher, mais ça permet d'être durable dans la conception de ton produit. Donc choix des matières, et après ça va être la manière dont le produit est construit, est-ce qu'il peut être déconstruit facilement? Ça, c'est ça aussi l'enjeu. Les déchets aujourd'hui qu'on accumule, c'est souvent des déchets que tu ne peux pas désassembler pour les refaçonner après derrière. Donc nous on travaille là-dessus depuis maintenant 8 ans, on travaille justement sur la manière dont on désassemble le produit, pour qu'il puisse être recyclé de la plus facile des manières, on va dire, et la moins coûteuse. Parce que c'est aussi ça le truc, c'est que pour que ça soit rentable, tout ça, faut pas que ça coûte très cher, parce que sinon les entreprises vont pas y aller. Et ça irait à contresens de l'objectif et l'idéologie de la marque. Et pour finir, après, il y a la manière aussi dont tu vas vendre ta marque. Est-ce que c'est une marque que tu brades, c'est-à-dire que tu en achètes beaucoup, mais du coup, au mois de décembre, tu commences à faire moins 20%, moins 30%. Donc là, tu favorises la consommation. Et favoriser la consommation, ça va à l'inverse de la sobriété. C'est-à-dire, on achète ce dont on a besoin et on fait réparer. La marque s'est positionnée sur tous ces segments-là. Et dans un futur proche, parce qu'on s'est donné 5 ans, l'idée, c'est d'arriver à travailler sur des modèles un peu différents, c'est-à-dire des modèles de location. Parce qu'en fait, pour faire le même chiffre d'affaires que tu ferais en vendant 100 vestes, il suffirait d'en produire que 40 et les mettre en location. Tu produis moins... Mais tu maintiens un niveau de chiffre d'affaires, parce que mine de rien, on est une entreprise, il y a une centaine de personnes derrière, il faut continuer à les faire vivre, c'est normal. Et pour continuer à innover, on ne le fait pas avec des médailles, mais bien avec de l'argent. C'est toujours ça le fil conducteur de toute entreprise, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire pour l'argent. Par contre, c'est de trouver les modèles qui te permettent en fait de produire moins, t'as ta sobriété, mais par contre derrière, on continue à parler produits, pratiques, besoins. C'est bien pris en compte et c'est une bonne question parce que souvent on dit je fabrique bio et puis après derrière c'est à moins 40 sur des sites et tu dis ça servait à rien de faire ça.
En tant que responsable, quels ont été les défis majeurs que vous avez rencontrés et quelles sont les réussites que vous considérez comme particulièrement significatives?
Les défis en fait t'en as tous les jours. Ça s'apparente alors d'extérieur, on voit Pitcher comme un truc, c'est trop cool, c'est fun, c'est des board sports, il y a un skatepark et tout. Mais à l'intérieur, tous les matins, t'enfiles tes gants de boxe ou de MMA, enfin ce que tu veux. Mais c'est ça, tous les jours, c'est tu rentres dans l'arène et tous les jours, il y a un problème. Soit c'est social, parce que deux personnes des équipes s'engueulent et il y en a une qui veut partir, sauf que si elle part, elle fout tout le monde dans la mouise, et vice-versa. Donc c'est là où il faut gérer des choses comme ça, ça fait partie du quotidien. Mais tu as aussi des fois des problèmes de magasins qui, d'un coup d'un seul, te disent on paiera plus tard. Sauf que toi, tu as besoin de cet argent maintenant. Donc, c'est des défis. Et tous les jours, c'est des problématiques différentes. C'est ce qui rend le job un peu fun, pour le coup. Mais c'est des défis. Et tous les jours, c'est un peu une nouveauté qui arrive. Donc, il faut l'apprendre avec philosophie. Il ne faut pas être stressé. Il faut être calme. Et puis, il faut regarder ce qui se passe. Et puis, enchaîner. Donc, les défis majeurs, tu en as tout le temps. Et notamment, un qui est très important, c'est celui de toujours se remettre en question et toujours reproposer quelque chose de nouveau. C'est ça le vrai défi, parce qu'on se lasse vite maintenant. Enfin, vous voyez bien, ça va à une vitesse foudroyante maintenant avec les réseaux sociaux. Tu fais une merde en l'espace de, une demi-heure, tu vois déjà tes comptes Instagram baisser, etc. Alors qu'il y a 16 ans, il fallait attendre limite que ça passe à la radio. Donc tu pouvais être peinard pendant 6 mois, après avoir fait une gourde. Tu vois ce que je veux dire? Une gourde ou pas d'ailleurs, peu importe. Parce que des fois c'est même des fake news. C'est-à-dire qu'on t'accable sur des choses, alors que c'est pas vrai. C'est un peu le tribunal qui est en permanence des réseaux sociaux, des machins. Aujourd'hui tout va vite, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Et mine de rien, une entreprise, elle peut pas aller aussi vite qu'une personne qui publie un truc sur son smartphone. C'est pas possible. Donc du coup, nous à chaque fois, il faut se concerter. Dire comment on répond à ça, ou ah cool, t'as vu, c'est ça qui est arrivé, mais du coup il y a une énorme demande et on peut pas reproduire en claquant des doigts. Donc tu vois, c'est toutes ces petites choses là et les défis majeurs, c'est d'arriver à coller à cette nouvelle vie qui va très vite. Ça, c'est un gros défi.
Et pour les étudiants intéressés par l'industrie de la mode durable, quel conseil vous donneriez pour faire carrière dans le domaine?
En fait, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde peut créer sa marque. C'est pas très compliqué maintenant. C'est-à-dire que tu n'as même plus besoin, notamment le Internet qui s'est développé à la vitesse grand V, les visios, etc. Tu n'as même plus besoin de te déplacer dans certains pays pour trouver des usines. Typiquement, c'est les usines qui viennent à toi. Ce qui n'était pas notre cas, nous, il y a 16 ans. Et surtout, on voulait trouver des usines qui soient hyper contrôlées, hyper contrôlables aussi. Et du coup, là, tu n'as pas le choix, faut te déplacer. Mais aujourd'hui, tu vois, tu as des modèles qui sont un peu différents, un peu à l'asphalte, tu vois, où en fait, tu achètes un truc que tu reçois 3 semaines, 1 mois après, parce qu'ils produisent au compte-gouttes. J'aurais tendance à dire que tout le monde aujourd'hui peut prétendre à créer sa marque. Par contre, le plus difficile et ce qui est le plus important, c'est pas de créer une marque pour créer une marque. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'il y ait un fond. Et une ADN, c'est-à-dire il y a un message, un peu comme une chanson, enfin c'est un peu comme un chanteur. Un chanteur, quand il va écrire une musique, bon en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais si normalement, et notamment dans le rap, c'est toujours pour donner quand même un message. Tu véhicules un message derrière tes paroles. Alors le sample est cool, la musique elle est cool, mais en réalité si on écoute bien les paroles, il y a toujours un fil conducteur. Et sur tout un album, ce qu'on n'a plus l'habitude d'écouter aujourd'hui, et quand tu achètes un vinyle, ce qui est bien avec le vinyle, c'est pas le format, c'est le fait que tu sois obligé d'écouter du début à la fin, dans l'ordre que l'artiste a défini, pas ce que Spotify t'a demandé de faire. C'est ça qui est important. Et du coup, tu comprends le fil conducteur, et tu comprends où il veut en venir dans son message global. Et bien une marque, c'est pareil. Quand tu crées une marque, pour que ça colle aux enjeux de sobriété de demain, il faut que ça colle quand même à toi quelque chose qui te colle à la peau, quelque chose que tu as envie de transmettre. Soit en message, soit en art, parce que t'as vraiment un truc artistique à proposer, et le support pour toi, c'est peut-être pas la toile, c'est peut-être un t-shirt, un sweat ou une casquette, ou j'en sais rien. Donc ça, c'est pas un problème. Mais du coup, c'est vraiment d'avoir une idée, un message, quelque chose, une ADN à transmettre. Pas juste se dire, je vais faire des t-shirts, je vais les vendre 15 balles et je vais me faire des sous. Parce que sinon, ça, alors ça marche 3 semaines sur Instagram, et puis après, ça disparaît. La longévité, se dessine qu'à partir du moment où tu es sincère, parce que tu as fait quelque chose, tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais, et ça se retranscrit dans l'âme du produit que tu achètes en face. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui va se pointer dans une boutique et qui va donner 35 euros contre quelque chose. Et ça, nous, c'est ce qui nous a le plus impressionné, c'est d'avoir vu des gens rentrer dans les boutiques et d'avoir vu des personnes prendre un de nos t-shirts ou notre veste et payer. Parce que c'est un acte symbolique, tu te rends compte, il y a des gens qui payent pour ça. C'est fou, la première fois ça te fait un truc, c'est terrible. Mais pour ça, il faut vraiment être sincère et avoir la conviction que ton produit est bien. Pour nous, pour la pratique sportive. Et on l'a construit pour ça, on est passionné de ça. Donc, tu véhicules un bon message qui est compréhensible par tous et qui permet justement que ça marche. Le conseil que j'ai à donner, c'est celui-ci.
Et pour finir, comme nous sommes un lycée hôtelier, quel est votre plat préféré?
Oh purée, j'en ai plein. Il y a le bœuf bourguignon, je kiffe ça. J'adore le couscous aussi. Et j'adore la sole.
Merci. Et voilà, chers auditeurs, notre exploration fascinante du parcours de Vincent André et de l'histoire inspirante de Picture Organic Clothing touche à sa fin. Nous tenons à remercier chaleureusement M. André pour sa contribution enrichissante à notre émission aujourd'hui. Si vous avez manqué une partie de cette interview, n'hésitez pas à la réécouter sur notre site web. Restez à l'écoute de Chameau Sport pour d'autres entretiens captivants. Merci de nous avoir rejoints. Ciao!
Passion.
Divertissement.
Respect.
Égalité.
Collectif.
Plaisir.
Objectif.
Rencontre.
Toutes les valeurs du sport avec Cham au sport.